Aujourd'hui, je reçois Elsa Refkolevski, metteuse en scène du spectacle L'Ellipse, qui sera présenté au TNS à Strasbourg du 20 au 25 juin. Donc L'Ellipse, ça nous plonge dans une première partie au cœur de la rédaction du magazine Match, avant juin 1940, puis nous transporte en 1945 en faisant donc l'ellipse de la période de la guerre. Votre pièce a la volonté de raconter le paysage d'avant une guerre, d'observer comment s'installe et se diffuse l'autoritarisme, le fascisme via un magazine People. Comment vous avez eu l'idée de réaliser votre premier spectacle au TNS sur le paysage donc, d'avant la guerre, puis à partir de 1945 par le biais d'un magazine?
Donc je pense que ce qui m'intéressait au départ, c'était en effet ce paysage d'avant une guerre, et je suis tombée sur le magazine Match un peu par hasard, et ce qui m'a tout de suite saisi, c'était le fait de se rendre compte que Hitler, ou des noms qui aujourd'hui font grand bruit quand on les entend en fait, étaient complètement entremêlés avec toutes sortes de sujets qui peuvent être des articles sur le cabaret, des articles sur un marathon de danse, des articles sur la mode, et donc je trouvais d'abord un magazine Match sur une brocante, et à la suite de ça j'en ai acheté plusieurs, et c'est lorsque je me suis rendu compte qu'en décembre 1938, les extraits de Mein Kampf étaient parus en feuilleton, donc à une époque où Mein Kampf n'était pas traduit en France, c'est-à-dire que ça avait été traduit une première fois en 1936, puis ensuite interdit. Et donc, c'est-à-dire que ça arrivait comme pourrait être publié n'importe quel roman en feuilleton, sans commentaire, c'est-à-dire ni négatif ni positif, au sein d'un magazine People lu par 1 million de personnes en France. Et ça m'intéressait d'avoir un regard sur cette période juste avant une guerre, qui ne serait pas ni rétrospectif, c'est-à-dire ce qu'on en dit aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire, c'était vraiment se dire ce à quoi les gens avaient réellement accès, pour réfléchir aussi à si on se retrouvait aujourd'hui dans une période qui était peut-être à l'amorce d'une guerre ou à l'amorce d'un grand chamboulement. Quels seraient les signes sur lesquels on serait prêt à s'aveugler s'ils apparaissaient noyés entre toutes sortes d'informations?
Comment vous expliquez le choix de ce magazine? Donc c'était vraiment du hasard? Au final, c'est un peu le destin, vous êtes tombé dessus et ça vous a inspiré?
Alors, je dirais qu'au départ, c'est du hasard, et ensuite, c'est ce qui m'a paru se rapprocher le plus de la façon dont on a accès à l'actualité aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux où peuvent se chevaucher des images de guerre et des publicités. Voilà, c'est un hasard, mais dans lequel je me suis engouffrée assez vite, consciente de la résonance que ça pouvait avoir avec la façon dont on a accès à l'actualité aujourd'hui.
C'était aussi une façon un petit peu de faire une critique de l'actualité comme on la voit tous les jours à la télé ou dans les magazines?
Si je devais parler de critique, je pense que c'est pas l'ambition principale, mais peut-être une critique de l'accès à l'information. Et ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai décidé de traiter ce sujet-là cet été, j'étais peut-être pas consciente d'à quel point ça résonnerait aujourd'hui lorsqu'on va le jouer au mois de juin.
Donc finalement, ça tombe bien que votre spectacle se passe maintenant.
Ouais, ça tombe bien pour le spectacle, oui. Moins pour le monde, mais pour le spectacle, oui. Enfin, ça m'incombe une responsabilité tout autre au vu des résonances que ça pourra avoir aujourd'hui de présenter ça sur un plateau.
Le spectacle, il est découpé en deux parties. Et pourquoi vous avez décidé de le découper en deux parties avec une ellipse de la guerre?
Alors déjà, c'est peut-être quelque chose qui est aussi arrivé en cours de travail. On se retrouve pas directement en 45 après cette ellipse. On se retrouve, disons, dans une temporalité qui est peut-être depuis 45 jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça va paraître peut-être un peu curieux, mais une lecture en fait qui m'a beaucoup accompagnée pendant toute la création de ce spectacle, c'est un livre de Charlotte Bérard qui s'appelle « Rêver sous le Troisième Reich », qui est une somme de rêves que faisaient les gens en Allemagne, donc juste après l'accession d'Hitler au pouvoir, et jusqu'à 1939. Et donc, c'est des rêves qui sont parfois des prémonitions, ou en tout cas qui donnent à voir ce qui se passe dans les rêves des gens à la montée d'un totalitarisme. Et parfois, je me dis, c'est comme si je racontais rêver après le Troisième Reich, mais qui serait aussi rêver dans l'attente de ce qui va se passer ensuite. Et la deuxième partie, c'est aussi comment ce qui a pu se passer continue à se transmettre dans les générations qui suivent, pendant cette ellipse qui comprend la guerre, mais qui comprend la Shoah, qui comprend comment ça se transmet de génération en génération, comment ce qui s'est passé peut donner l'impression que ça va jamais se répéter, mais comment en fait on travaille aussi avec la mémoire, qu'est-ce qu'on retient, mais aussi qu'est-ce que les générations qui suivent continuent de porter de ce que ça peut constituer de traumatisme, cette période-là. En fait, comment vis-à-vis de ce traumatisme on est actif ou passif. Comme je sais qu'une des pistes pour cette deuxième partie, c'était ce que j'ai appelé les concours de mémoire, mais qui sont en réalité quelque chose d'inspiré des concours qui ont eu lieu pour des monuments de mémoire. C'est-à-dire, par exemple, à Berlin, aujourd'hui, il y a un monument qui est en hommage aux victimes de l'Holocauste. Il y a eu tout un un concours, un appel à projet à des artistes pour qu'est-ce que ça allait être ce monument-là. Et ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser ce canevas d'un concours de mémoire pour poser la question plus globalement de la mémoire telle qu'elle se transmet de génération en génération, mais aussi de la concurrence mémorielle, de comment on fait pour continuer à avoir de l'empathie vis-à-vis de personnes qui n'ont pas la même mémoire que nous, pour que ça ne se gangrène pas une détestation aujourd'hui entre des gens qui auraient une mémoire distincte, notamment liée à cette période de la Seconde Guerre mondiale.
Pour vous, le devoir de mémoire, c'était important de le montrer à travers ce spectacle.
Il y a toute une interrogation sur est-ce qu'on doit appeler ça un devoir de mémoire ? Est-ce que ça continue d'être effectif lorsqu'on appelle ça un devoir ? Je pense que c'est très important de se souvenir.
Concernant plutôt vos personnages, ils sont inspirés des journalistes de match et des proches de la rédaction. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu plus sur la façon dont ils ont été créés ?
Ce sont des personnages qui sont inspirés des réels rédacteurs de la rédaction de match à l'époque, mais autour desquels j'ai aussi tissé toute une histoire fictionnelle pour qu'ils revêtent une portée plus universelle. Et donc, comme personnage réel, il y a le personnage de Roger Stéphane, qui était jeune journaliste du magazine Match à l'époque, qui s'appelait en réalité Roger Worms, qui était juif, mais voilà, qui écrivait sous un pseudo. Il y a un personnage qui est inspiré de Natacha Avirenos, qui était dactylographe au sein du magazine Match, à propos de laquelle on a finalement très très peu d'informations, qui est devenue une fiction dont on a fait un personnage gris, c'est-à-dire un personnage qui elle-même donc est grecque, donc arrive en France avec une fragilité de départ, voilà, une difficulté pour s'insérer au sein de cette rédaction du fait d'être étrangère, mais qui ensuite verse dans la collaboration. Et donc, par exemple, Natacha Avirenos, je ne sais pas très bien en fait ce qu'elle a vraiment fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je connais un peu le contexte de son arrivée en France, mais ça nous semblait intéressant de montrer comment au sein d'une rédaction il pouvait y avoir des parcours différents, et notamment ce parcours-là. Alors ça, c'est pas Match, mais c'est Paris Soir, qui était un quotidien qui faisait partie du même groupe de presse dirigé par Jean Prouveau que le magazine Match. Ce groupe de presse, au début de l'occupation, a été récupéré par les Allemands. Et donc, il y en avait forcément eu au sein de cette rédaction, qui n'était pas forcément ce personnage de Natacha, qui avait aidé à ce que cet organe de presse soit récupéré par les Allemands. Disons que c'est un mélange d'inspiration de qui étaient les vrais personnages, étoffé par la consultation de leur biographie, en écoutant des interviews, en écoutant ce qu'ils ont pu dire après-guerre, mais entremêlé aussi avec, pour les besoins de la fiction et de ce qu'on voulait raconter, de rajout à propos de ce qu'étaient les personnages réellement.
Donc il y a une part de fiction, une part de réalité. Qu'est-ce que vous vouliez dire donc réellement avec ces personnages ? Parce que du coup, ces personnages, en fait, c'est des outils pour vous exprimer.
C'est peut-être pas aussi présent qu'au départ dans ce spectacle, mais au départ, je m'intéressais beaucoup à la personnalité de Jean Prouveau, qui était le grand patron de cette rédaction, qui apparaît pas sur scène en tant que personnage. Que Match, c'était un journal qui, on pourrait considérer aujourd'hui, ni de droite ni de gauche, plutôt toujours en accord avec les gouvernements en place en France. Et donc Jean Prouveau, qui était plutôt en soutien du Front Populaire. Donc, il devient ministre de l'Information sous le gouvernement de Paul Reynaud. Et il reste à son poste au moment où Pétain arrive au pouvoir. Et donc, il devient ministre de la Propagande au sein de ce gouvernement. Et il reste seulement 20 jours au sein de ce gouvernement. Et ensuite, il va repartir en France libre et faire beaucoup de résistance. Mais après guerre, il va être condamné et on va lui faire un procès pour indignité nationale parce qu'il y a eu, disons, ces 20 jours où il a fait partie d'un gouvernement. Et donc, une question que je me posais, c'était de se dire, en effet, il a fait partie du gouvernement de Pétain. En réalité, il n'est pas entré au gouvernement sous Pétain, il a gardé son poste. Mais est-ce qu'on doit considérer que, parce qu'il a été 20 jours dans le gouvernement de Pétain, c'est un monstre ? Ou est-ce qu'on doit aussi le mettre en lumière des plusieurs années qu'il a passées à faire de la résistance ? Il a contribué au fait que des journalistes qui étaient juifs au sein de sa rédaction soient cachés. Il a permis aux gens de continuer à percevoir un salaire au sein de cette rédaction alors que les papiers n'étaient plus publiés. Et donc, c'est une question que je me posais, non pas pour pardonner en fait, des gens qui auraient versé dans la collaboration, mais de prendre conscience que c'est ni tout noir, ni tout blanc. Et en fait, se poser la question de évidemment qu'il faudrait pas faire de compromis, quoi, mais de comment, en fait, ça m'intéressait de montrer comment le compromis se crée, comment on se retrouve, en fait, aussi à verser dans la collaboration, et notamment à travers ce personnage de Natacha, qu'on condamne, mais en fait, ça m'intéresse aussi de réfléchir, voilà, au trajet qui l'a amené à faire ça, et non, à nouveau, non pas pour la pardonner, mais pour la comprendre, parce que je pense que si on condamne sans comprendre, on n'ira pas très loin.
La première partie, elle se passe dans la salle de rédaction, et pourquoi avoir choisi que la deuxième partie se déroule dans un cabaret ?
Alors en réalité, la première partie se passe dans une salle de rédaction et dans un cabaret.
Et donc pourquoi ce double lieu ?
Il y a des doubles personnages qui sont à la fois rédacteurs, qui ont à la fois des numéros de cabaret et qui travaillent dans la rédaction. Disons que le cabaret est à la fois l'objet d'un article de presse, c'est comme si on faisait un article sur un cabaret, et à la fois une façon de raconter l'histoire un peu différemment, d'un point de vue un peu différent que celui qui serait le contenu d'un article. Souvent, en fait, les personnages de cabaret dans le spectacle sont incarnés par les mêmes acteurs qui incarnent les journalistes, et c'est comme si on avait accès à une part de leur inconscient qui se déployait à travers un personnage de cabaret.
Le lieu, c'est un moyen de s'exprimer en fin de compte.
C'est un moyen de s'exprimer, mais par exemple, en fait, donc le personnage de Roger, qui est donc ce journaliste juif qui fait partie de cette rédaction, lui interprète le personnage aussi d'Emilio, qui est un cabaretiste qui va finir par être arrêté sous l'occupation. Le personnage est, en fait, dont on va voir la chute, non pas... Enfin, on va voir son arrestation, on va comprendre ce qui s'est passé de son histoire, non pas à travers ce personnage de Roger, mais à travers son versant cabaretique. Les numéros de cabaret sont vraiment un langage différent, c'est-à-dire qu'on voit pas le personnage de la rédaction avoir sa vie nocturne, mais c'est comme si c'était un... Je travaillais beaucoup avec des rêves, des prémonitions, et donc, Natacha, peut-être que c'est le plus parlant, c'est à travers une incarnation de la chanson Lily Marlin qu'elle va pas réussir à chanter, et que la chanson va exploser de l'intérieur, et donc... Cette actrice devient l'incarnation de son propre parcours de verser dans la collaboration à travers une chanson qui va exploser de l'intérieur et à l'intérieur de laquelle la culpabilité va émerger du fait des notes de musique qui s'étiolent et qui deviennent plus que des bruits.
On peut peut-être se demander, vous parliez de musique dans votre spectacle, est-ce qu'il y a une sorte d'hommage à votre grand-père qui lui était musicien ?
Je pense que tout le long de ce spectacle, de mon grand-père, mais tous mes grands-parents ont été très marqués par, dans leur petite histoire, par la grande histoire à cette période-là. Ce spectacle émane à la fois des discussions qu'on a pu avoir, voilà, de l'éducation que j'ai pu avoir, du fait de porter toute cette histoire à l'intérieur de mon corps, mais qu'il est aussi le résultat de questions auxquelles on n'a pas eu de réponse. Donc voilà, c'est un mélange d'héritage et de silence. Réfléchir à ce qu'on fait de ce silence-là, qui fait qu'on se retrouve à porter des mémoires dont on n'a pas tout à fait la clé. Comme si c'était un chagrin d'amour, on sait ce qui a causé ce chagrin d'amour, et quand on a un chagrin d'histoire, comme si il n'y avait pas de façon de se remettre de ce chagrin, parce qu'on n'était pas à l'origine de ce chagrin. Et je pense que c'est aussi ce que ce spectacle raconte. L'impossibilité de remonter dans le temps, l'impossibilité d'avoir un impact sur l'avenir, mais une tentative toujours en fait, de raconter l'histoire, même si on ne sera jamais capable de raconter l'histoire de façon fidèle, mais jamais que le regard qu'on porte sur elle. Et c'est ce qui me touche beaucoup aussi avec l'utilisation de ce magazine Match, dont si on le feuillette, ce qui est dit de l'actualité, ce qui est dit de l'histoire en train de se faire est partiel. C'est-à-dire que c'est des légendes sur l'histoire dans un magazine People. Ça m'évoquait beaucoup de choses de partir de ces résumés partiels, parce que c'est tout ce qu'on est capable de faire à notre petite échelle.
Si on souhaite se rendre à votre pièce, comment ça se passe ? On peut un peu rappeler les dates et un dernier teasing peut-être avant le jour J.
Ça joue du 20 au 25 juin à l'espace Gruber, qui est une des salles du TNS, au studio Jean-Pierre Vincent. Et ça joue donc le jeudi et le vendredi à 20h. Le dimanche, ça joue à 17h. Et le lundi et mardi à 20h également. C'est un spectacle qui invite le public à venir se poser des questions en même temps que les acteurs, les personnages, ou moi-même nous les posons au plateau, et que on serait heureux d'accueillir des gens dans cette réflexion en train de se faire.
Merci beaucoup, Elsa.
Merci à vous.